Deuxième partie, chapitre 4, scène 18. Des bruits de plus en plus inquiétants sur la marche de la guerre se répandirent à Moscou vers le commencement de juillet. On parlait de proclamation de l'empereur à son peuple et de sa prochaine arrivée. On disait qu'il quittait l'armée parce qu'elle était en danger, que Smolensk s'était rendu, que Napoléon avait avec lui 1 million d'hommes et qu'un miracle seul pouvait sauver la Russie. On reçut le manifeste le 23 juillet, mais comme il n'était pas encore imprimé, Pierre promit au Rostov de revenir dîner le lendemain et de l'apporter de chez le comte Rostopchine avec la proclamation qui y était jointe. Le lendemain était un dimanche, une vraie journée d'été, d'une chaleur déjà accablante à 10 heures du matin, heure à laquelle les Rostov venaient d'habitude entendre la messe à la chapelle de l'hôtel Rasoumovski. On éprouvait à la fois une grande lassitude, jointe à cette plénitude de sensations et de vagues malaises que provoque presque toujours une journée de forte chaleur dans une grande ville. Ces différentes impressions se reflétaient partout, dans les couleurs claires des vêtements de la foule, dans les cris des marchands de la rue, dans les feuilles couvertes de poussière des arbres du boulevard, dans le bruit du pavé, dans la musique et les pantalons blancs d'un bataillon qui allait à la parade, et encore plus dans l'ardeur brûlante d'un soleil de juillet. Toute l'aristocratie moscovite se trouvait réunie à la chapelle de l'hôtel, car la plupart des grandes familles, dans l'attente d'événements graves, étaient restées à Moscou au lieu de se rendre dans leurs terres. La comtesse Rostov descendit de voiture, et un laquais en livrée la précéda afin de lui frayer un passage à travers la foule. Natacha, qui la suivait, entendit tout à coup un jeune homme inconnu dire assez haut à son voisin
« Oui, c'est la comtesse Rostov, c'est bien elle. Elle a beaucoup maigri, mais elle est très embellie. »
Elle crut comprendre, ce qui lui arrivait du reste constamment, qu'il prononçait les noms de Kouragine et de Bolkonski. Car il lui semblait que chacun, en la voyant, devait parler de son aventure. Touchée au vif, douloureusement émue, elle continuait à avancer dans sa toilette mauve avec le calme et l'aisance de la femme qui s'applique à en témoigner d'autant plus qu'elle se meurt de honte et de chagrin au fond de l'âme. Elle se savait belle et ne se trompait pas, mais sa beauté ne lui causait plus la même satisfaction que par le passé. Et par cette journée si lumineuse et si chaude, elle n'en était au contraire que plus vivement tourmentée. Encore une semaine de passé, se disait-elle, et ce sera toujours ainsi, toujours la même existence triste et morne. Je suis jeune, je suis belle, je le sais. J'étais mauvaise, et je suis devenue bonne, je le sais aussi. Et mes plus belles années vont ainsi se perdre sans profit pour personne. Se plaçant aux côtés de sa mère, elle enveloppa d'un regard les personnes et les toilettes qui l'entouraient, critiqua par habitude la tenue de ses voisines et la manière de se signer. « Elles me jugent aussi, sans doute », se disait-elle pour s'excuser. Mais au premier chant de la messe, elle frémit de terreur en comparant ses futiles pensées à celles que le jour de sa communion aurait dû lui inspirer. N'en avait-elle pas à tout jamais terni la radieuse pureté? Un digne et respectable vieillard officiait avec la douce onction qui pénètre et repose l'âme de ceux qui prient. Les portes saintes se refermèrent, et derrière le rideau lentement tiré, une voix mystérieuse murmura quelques paroles. Les yeux de Natacha se remplirent involontairement de larmes, et une douce et énervante émotion envahit tout son être. « Enseigne-moi ce que j'ai à faire. Enseigne-moi à me résigner. Enseigne-moi surtout à me corriger pour toujours, » pensait-elle. Le diacre, sortant de l'iconostase, se plaça devant les portes saintes, retira ses longs cheveux de dessous le dalmatique et, faisant un grand signe de croix, dit avec solennité
« Prions en paix le Seigneur !»
Et Natacha ajoutait mentalement « Prions sans différence de condition, sans haine, unis tous ensemble dans l'amour fraternel.
Prions afin qu'il nous accorde la paix du ciel et le salut de nos âmes.
Disait le diacre. Et Natacha lui répondait du fond du cœur : Prions pour obtenir la paix des anges, la paix de tous les êtres spirituels qui vivent au-dessus de nous. À la prière pour l'armée, elle invoqua le Seigneur pour son frère et pour Denisov. À la prière pour les voyageurs sur terre et sur mer, elle pria pour le prince André et demanda à Dieu pardon du mal qu'elle lui avait fait. À la prière pour ceux qui nous aiment, elle pria pour les siens, y compris, pour la première fois, les torts qu'elle avait eus envers eux. À la prière pour ceux qui nous haïssent, elle se demanda quels pouvaient être ses ennemis et n'en trouva pas d'autres que les créanciers de son père. Un nom, pourtant, celui d'Anatole, lui venait toujours aux lèvres à ce moment, et, bien qu'il ne fût pas de ceux qui l'avaient haï, elle priait pour lui avec un redoublement de ferveur comme pour un ennemi. Il ne lui était possible de penser avec calme à lui et au prince André que lorsqu'elle se recueillait, car alors seulement la crainte de Dieu l'emportait sur ses sentiments à leur égard. À la prière pour la famille impériale et pour le Saint-Synode, elle se signa plus dévotement encore, se disant que, puisque le doute lui était interdit, elle devait, sans comprendre le but de cette prière, prier avec amour pour le synode dirigeant.
Recommandons-nous tous, chacun de nous mutuellement et à chaque instant de notre vie, à Jésus-Christ notre Dieu.
Continua le diacre. Et Natacha, s'abandonnant complètement à son élan religieux, répétait avec exaltation « Prends-moi, mon Dieu, prends-moi !» On aurait dit, à voir son attitude, qu'elle se sentait sur le point d'être enlevée au ciel par une force invisible et délivrée de ses regrets, de ses défauts, de ses espérances et de ses remords. La comtesse, qui avait observé son visage recueilli et ses yeux brillants, demandait à Dieu, de son côté, qu'il daignât venir en aide à sa fille chérie. Au milieu de l'office, et contrairement à toutes les habitudes, le sacristain plaça devant les portes saintes le petit escabeau sur lequel on posait ordinairement le livre contenant les prières que le prêtre récitait à genoux le jour de la Pentecôte. L'officiant, sa calotte de velours violet sur la tête, descendit de l'autel et s'agenouilla péniblement. Son exemple fut aussitôt suivi par l'assistance étonnée. Il se préparait à lui lire la prière composée et envoyée par le Saint-Synode pour demander à Dieu de délivrer la Russie de l'invasion étrangère.
Ô Seigneur Tout-Puissant, Seigneur qui est notre délivrance,
dit le prêtre lisant sans emphase, d'une voix douce et claire, la voix des ecclésiastiques du rite grec dont l'effet est si puissant sur les cœurs russes.
Nous nous adressons humblement à ta miséricorde infinie, nous confiant en ton amour. Écoute notre prière et viens à notre secours. L'ennemi jette le trouble parmi tes enfants et veut transformer le monde en un désert. Lève-toi contre lui. Ces hommes criminels se sont réunis pour détruire ton bien, pour réduire à néant ta fidèle Jérusalem, ta Russie bien-aimée, pour souiller tes temples, renverser tes autels et profaner nos sanctuaires. Jusque à quand, Seigneur, les pécheurs triompheront-ils? Jusque à quand auront-ils le pouvoir d'enfreindre tes lois? Seigneur, écoute ceux qui prient, que ton bras soutienne notre très pieux et autocrate empereur Alexandre Pavlovitch. Que sa loyauté, sa douceur trouvent grâce à tes yeux. Récompense ses vertus qui sont le rempart de ton Israël bien-aimé. Bénis et inspire ses résolutions, ses entreprises et ses œuvres. Affermis son règne de ta main puissante. Donne-lui la victoire sur l'ennemi, comme à Moïse sur Amalek, à Gédéon sur Madian, à David sur Goliath. Protège ses armées, soutiens l'arc des Mèdes sous les selles de ceux qui se sont soulevés en ton nom, et ceins-les de ta force pour le combat. Arme-toi aussi du bouclier et de la lance, et lève-toi pour nous secourir. Que la confusion retombe sur ceux qui nous veulent du mal. Qu'il en soit d'eux devant tes armées fidèles, comme de la poussière que le vent disperse, et donne à tes anges le pouvoir de les abattre et de les poursuivre. Que leur dessein secret se retourne contre eux au grand jour. Qu'ils tombent dans un réseau inextricable, qu'ils tombent devant tes esclaves, qui les fouleront aux pieds. Seigneur, tu peux sauver les grands et les petits, car tu es Dieu, et l'homme ne peut rien contre toi. Dieu de nos pères, ta grâce et ta miséricorde sont éternelles. Ne nous repousse pas loin de ton visage à cause de nos iniquités, mais accorde-nous le pardon de nos péchés dans ta bonté infinie. Élève en nous un cœur pur et un esprit droit. Raffermis notre foi et notre espoir. Souffle-nous l'amour mutuel et unis-nous dans la défense du patrimoine que tu nous as donné à nous et à nos pères, afin que le sceptre des méchants ne règne pas sur la terre de ce que tu as béni. Seigneur Dieu, nous croyons en toi. Ne nous couvre pas de honte et que notre attente dans tes bienfaits ne soit pas déçue. Fais un signe afin que nos ennemis et ceux de notre sainte religion puissent le voir et périr de confusion. Que tous les peuples puissent se convaincre que ton nom est le Seigneur et que nous sommes tes enfants. Témoigne-nous ta miséricorde et accorde-nous la délivrance. Réjouissant le cœur de tes esclaves, frappe nos ennemis et renverse-les aux pieds de tes fidèles. Car tu es le secours, l'appui et la victoire de ceux qui se confient en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
Impressionnable et fortement troublée comme elle l'était en ce moment, Natacha fut profondément remuée par cette prière. Elle en écouta religieusement les passages où il était question des victoires de Moïse, de Gédéon, de David, de la destruction de Jérusalem, et pria Dieu, d'un cœur attendri et ému, mais sans se rendre bien compte de ce qu'elle lui demandait. Lorsqu'il s'agissait pour elle d'en obtenir un esprit pur, le raffermissement de sa foi, de lui rendre l'espoir et de lui inspirer l'amour fraternel, elle y mettait toute son âme. Mais comment pouvait-elle demander à Dieu de lui laisser fouler aux pieds ses ennemis, lorsque peu d'instants auparavant, elle avait souhaité d'en avoir beaucoup, afin de pouvoir les aimer tous et de prier pour eux? Comment, d'un autre côté, douterait-elle de la vérité de la prière qu'on venait lui lire à genoux? Une terreur pleine de recueillement la pénétra à la pensée des punitions qui frappent les pécheurs. Elle pria avec élan afin d'obtenir leur pardon, et le sien. Et il lui sembla que Dieu avait entendu sa prière et qu'il lui accorderait le repos et le bonheur en ce monde.